Vous écoutez On lit pour vous.
Le rôle de père aidant en itinérance et toxicomanie. Partage d'expérience à Médecins du Monde. Une entrevue réalisée par Benoît Tellier, parue le 28 novembre 2023 dans Nouvelles pratiques sociales. La père aidance connaît un développement important depuis quelques années, mais encore peu de publications en discutent les enjeux. La revue Nouvelles pratiques sociales a ainsi invité Farin Shore, qui exerce ce rôle depuis plusieurs années, à parler de sa pratique au sein de l'organisme Médecins du Monde. Dans cette entrevue, il livre une analyse très riche de ce que la père aidance peut apporter au regard des difficultés d'accès aux soins et à l'aide rencontrées par les personnes marginalisées. Nouvelle pratique sociale. Farin, pourriez-vous nous parler du rôle que vous jouez comme père aidant au sein de l'organisme Médecins du Monde, ainsi que de ce qui vous a amené à jouer ce rôle? Bien sûr. Mais je vais d'abord commencer en nommant la manière dont je suis arrivé chez Médecins du Monde afin de clarifier ma position. Puisque je travaille comme père aidant en réduction des méfaits, mon vécu qui compte dans cette position que j'occupe, se veut être les années où j'ai consommé des drogues par injection. Ce qui m'amène chez Médecins du Monde, c'est le fait que, dans le passé, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un traitement efficace. Lorsque j'ai moi-même pris la décision de diminuer ma consommation, tout ce qui était offert à ce moment-là dans le système de santé était basé sur des approches qui s'appuient sur la foi. Nous étions invités à avoir foi en Jésus, en Dieu, en l'espoir. Cependant, ce n'était rien de scientifique. Je préfère avoir des attentes réalistes que simplement de l'espoir, puisque pour moi, aucune de ces interventions n'a fonctionné. J'ai même l'impression que ces approches ont aggravé ma situation. J'ai donc décidé de trouver ma propre approche et pendant à peu près 6 ou 7 ans de recherche et d'expérimentation, j'ai développé ce que je nomme une consommation gérée. Quand j'ai commencé à travailler comme père aidant pour un autre organisme communautaire à l'époque, j'ai tout de suite trouvé que la méthode de réduction des méfaits est très semblable à l'approche que j'ai développée. Pour moi, l'important dans le traitement, c'est d'une part de réduire les méfaits de la consommation et d'autre part d'améliorer les bienfaits de la vie. Donc, il y a 2 mouvements qui agissent parallèlement, qui octroient de l'autonomie aux personnes afin qu'elles puissent contrôler le progrès de leur qualité de vie. J'ai été très chanceux d'être reconnu par Médecins du Monde qui a aimé cette approche. En effet, Médecins du Monde fait vraiment dans l'accès à la santé, et c'est quelque chose qui est très difficile pour les personnes qui consomment. L'approche traditionnelle d'abstinence retire l'autonomie des personnes, ce qui n'est pas toujours agréable. Cette dernière fait un peu de profilage social dans le sens où les gens doivent être abstinents pour avoir accès aux soins, et pour moi, c'est un bémol. C'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Donc, ma position chez Médecins du Monde me place dans une situation où je peux travailler en intervention avec des personnes consommatrices de drogue et, en même temps, faire des plaidoyers pour assurer que le système de santé devienne assez flexible pour répondre aux capacités de ces personnes. Nouvelle pratique sociale. Médecins du Monde est un organisme qui s'intéresse à la santé de la population, mais j'ai l'impression que vous avez une définition de la santé qui est un peu plus large que celle que nous voyons au sein du système de santé. Effectivement, nous concevons la santé à travers une perspective holistique, où il est question d'avoir accès à un logement sain et de la nourriture. Nous considérons aussi l'entourage de la personne et les dynamiques relationnelles qui s'y trouvent ainsi que de l'implication sociale de celle-ci. Nous adressons des éléments qui ont tendance à être ignorés par le système de santé qui, lui, emprunte un discours biomédical et qui oublie l'influence du social sur les personnes qui consomment. Pour nous, cette division dans le réseau amène des complications pour les personnes qui tentent d'avoir accès à des soins. Donc, nous voulons que le système de santé soit en mesure de prendre en considération tout ce qui est lié à la santé sociale des personnes consommatrices de drogue. Nous essayons de voir par-delà le cadre biomédical de la santé. Nouvelles pratiques sociales. Depuis quelques années, dans le monde de l'intervention sociale, nous parlons de savoir expérientiel. Quel est votre regard sur ce type de savoir et en quoi est-ce qu'il peut fonder le rôle de père aidant? L'expérience, c'est la fondation de la père aidance. Plus précisément, c'est le recul qu'un père aidant a développé face à une situation qui a été difficile dans le passé, mais qui est devenue plus facile à gérer. Donc, pour moi, qui suis un ancien consommateur de drogue qui est entré dans le milieu de la santé, j'ai des connaissances et des compétences qui se transfèrent à ce nouveau métier. C'est encore un métier qui est en évolution, alors il est certain que ce que j'ai développé comme compétences dans le passé, je peux le conjuguer avec les nouvelles compétences que j'acquiers actuellement. Nouvelles pratiques sociales. Dans ce transfert d'expertise que vous avez effectué, est-ce que vous avez des exemples de connaissances qui ont été utiles à Médecins du Monde et qui proviennent de votre vécu? Cette question me ramène à une intervention en particulier qui est un très bon exemple. Je travaille actuellement dans une clinique mobile. Nous sommes sur la route et nous faisons des sorties chaque jour durant la semaine et ce, dans différents quartiers. Notre van est équipé d'une boîte fermée en arrière pour l'infirmière qui fait les examens. En avant, j'ai un petit espace où je distribue le matériel de consommation et où je fais des interventions et donne certains conseils. Lorsque l'infirmière a besoin de trouver une veine, elle me demande d'aider le patient à sortir une veine qui sera accessible pour l'infirmière. Cette idée de sortir une veine, qui est très difficile à apercevoir, c'est quelque chose que savent les gens qui s'injectent. Il y a beaucoup de différentes techniques que nous pouvons utiliser dans la rue lorsque nous faisons une injection qui ne sont pas nécessairement pratiquées dans le système de santé. Cette interaction donne trois avantages. Le premier concerne le patient, qui obtient une prise de sang qui s'effectue avec du soutien. Deuxièmement, ça procure une confiance au patient envers son infirmière qui est ouverte à la culture des personnes qui s'injectent. Troisièmement, ça me permet de me faire connaître du patient afin d'éventuellement poursuivre mon intervention et d'adresser la question de la consommation. Donc, cette manière de travailler donne naissance à une équipe multidisciplinaire, ce qui est avantageux pour le patient, l'infirmière ainsi que pour le père aidant, en plus de faciliter une confiance envers le système de santé et de bonnes relations entre les travailleurs et les patients. Vous écoutez le rôle de père aidant en itinérance et toxicomanie, partage d'expérience à Médecins du Monde. Une entrevue réalisée par Benoît Tellier, parue le 28 novembre 2023 dans Nouvelles pratiques sociales. Nouvelles pratiques sociales. Si je comprends bien, ces avoirs expérientiels permettent de jouer un rôle d'interface entre les personnes visées et les institutions qui portent les interventions. Bien sûr, c'est très important. Il y a quelque chose de clé ici et qui, dans beaucoup de mes discussions avec les employés dans le système de santé, n'est pas vraiment clair pour eux. Il y a un choc culturel qui se produit dans les interactions entre les personnes qui s'injectent et le système de santé. Le système de santé fait partie d'une culture dominante dans notre pays et les utilisateurs de drogue par injection sont dans une culture à part, qui est souvent stigmatisée et qui fait face à beaucoup de discrimination. Alors le choc culturel pour eux, il est majeur. plus je travaille comme père aidant, plus je remarque que ce choc culturel est également grave et nuisible pour les travailleurs. Donc, je me trouve dans un rôle où je peux faciliter la rencontre de ces deux acteurs en état de choc culturel dans le but qu'ils travaillent ensemble. Il y a deux cultures, donc deux manières de communiquer et deux systèmes de langage. Il y a aussi des capacités et des valeurs qui sont différentes des deux côtés. Il y a un besoin d'ouverture et, lorsque ce n'est pas le cas dans le système de santé, les patients frappent un mur. Donc, mon rôle est d'assurer que le patient n'ait pas l'expérience de frapper un mur et qu'il se décourage face au système. J'éduque les patients, mais aussi les travailleurs dans le système de la santé. Chacun a besoin d'avoir une certaine compréhension et empathie envers l'autre. Donc, je joue dans les deux côtés en même temps. D'un bord, c'est vraiment une culture de survie et de l'autre, c'est une culture où l'on veut profiter de la vie. Les perspectives sont donc tellement différentes. Mon rôle est de rapprocher chaque côté un peu plus de l'autre pour qu'au final, ma présence ne soit pas nécessaire parce que le patient et le professionnel de la santé travaillent ensemble, avec une bonne communication, où ils construisent ensemble un cadre pour essayer d'améliorer la qualité de vie ainsi que la santé des patients. Pour le père aidant, qui est entre les deux côtés, il est aussi question d'avoir une capacité d'auto-formation puisque nous sommes embauchés par le système et nous n'avons pas nécessairement de formation formelle. Donc, la capacité d'apprendre différentes manières de communiquer, le vocabulaire, la langue des cliniciens, c'est important. Il faut aussi comprendre la structure du système de santé afin de saisir comment celui-ci se met en place pour assurer le bien-être de ses employés et, en même temps, garantir une bonne qualité de soins pour les patients. Pour moi, ça c'est important dans le rôle d'interface, d'être capable de comprendre les deux côtés et de les aider à s'approcher tranquillement l'un de l'autre pour que ma présence ne soit plus nécessaire. Nouvelle pratique sociale. Est-ce que vous avez des exemples ou des illustrations de ce que les gens du côté institutionnel ne comprennent pas de cette culture marginalisée et opprimée à laquelle appartiennent les personnes utilisatrices de drogue par injection? J'ai un très bon exemple en tête. Je m'excuse puisqu'il s'agit de quelque chose que j'ai fait dans le passé dont je ne suis pas fier. Il y a 15 ans, j'ai tenté de renouveler ma carte de la RAMQ dans une période où j'étais sans adresse fixe. La dame au comptoir m'avait demandé mon adresse et je lui avais dit de ne pas avoir d'adresse. Celle-ci m'a donc questionné à savoir où je vivais. J'avais répondu « ici et là, mais pas dans un appartement ». Elle m'a mentionné avoir absolument besoin d'une adresse afin de renouveler ma carte. Le ton de la dame a monté. À 6 reprises, elle a reposé la question en refusant d'accepter ma réponse honnête. À ce moment-là, j'ai explosé. J'ai perdu patience face à cette insistance où il est considéré que les gens qui vivent dans un état de survie doivent avoir les mêmes ressources que ceux qui vivent pour profiter de la vie. Dans le formulaire que je devais remplir, il n'y avait simplement pas d'endroit où je pouvais inscrire le fait que je n'avais pas d'adresse fixe. Ce manque de flexibilité dans le système est une véritable barrière à l'accès aux soins. Dans une perspective de bien-être, l'argent que nous recevons du gouvernement n'est pas suffisant pour garder un logement. Le chèque de 700 $ par mois ne nous permet pas d'y arriver. Nous devons faire un choix entre la nourriture et le logement. Pour ma part, j'ai choisi la nourriture puisque j'étais malade à l'époque. Donc, j'ai dormi à la ROF. Que le système ne soit pas assez flexible pour reconnaître la réalité sociale d'une bonne partie de notre population, c'est pour moi quelque chose qui doit changer. Dans ma position, où une partie de mon travail est le plaidoyer, Mon but est de faire en sorte que les personnes qui travaillent dans le système de services sociaux et du réseau de la santé soient capables de comprendre qu'il y a des sous-cultures en Amérique du Nord qui comprennent une partie significative de notre population. La pauvreté en Amérique du Nord s'approche du 30 %. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette position et beaucoup d'individus qui vivent ce genre de déclencheur à chaque fois qu'elles demandent des services. Maintenant que j'ai davantage de recul, je peux faire face à des déclencheurs sans exploser. Mon rôle actuellement est donc d'accompagner ceux et celles qui n'ont pas le même recul et qui ont encore tendance à exploser face à ces barrières. Nouvelle pratique sociale. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour réduire ces barrières, pour éviter que certaines personnes frappent des murs? Il y a beaucoup de réponses différentes à cette question. Pour moi, la chose qui est vraiment en première ligne, c'est la rigidité dans les règles et les protocoles. Nous avons besoin de trouver des moyens pour rendre le système et l'accès au système plus flexibles. D'un côté, je comprends que la standardisation rende les choses beaucoup plus faciles au niveau du travail dans un système complexe. De l'autre côté, chacun de nos patients est un être humain distinct et unique dans sa diversité. Donc, comment est-ce que nous pouvons coordonner cette diversité et cette standardisation? Pour moi, la réponse, c'est d'avoir des critères d'admission et des protocoles qui sont plus souples. C'est peut-être beaucoup plus facile pour moi comme père aidant, parce que j'avais déjà vécu dans un monde sans règles, où j'étais libre de faire ce que je voulais. Par contre, ce n'est pas comme ça que nous travaillons dans le système. Donc, si nous voulons être accueillants avec ceux et celles qui vivent cette liberté, nous avons besoin de trouver les moyens d'être flexibles afin que celles-ci ne les empêchent pas d'avoir accès aux soins. Je suis convaincu qu'il y a assez de personnes dans le système qui sont capables de comprendre qu'aujourd'hui, pour cette personne en particulier, on peut plier la règle juste un peu pour qu'elle puisse entrer. Vous écoutez Le rôle de père aidant en itinérance et toxicomanie, partage d'expérience à Médecins du Monde, une entrevue réalisée par Benoît Tellier, parue le 28 novembre 2023 dans Nouvelles pratiques sociales. Nouvelles pratiques sociales. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont liés à votre place de père aidant, tant dans le rapport aux personnes que vous accompagnez qu'aux institutions que vous voudriez mettre en lumière? Pour moi, le plus important des enjeux en tant que père aidant est d'assurer que le système puisse s'adapter aux capacités des usagers. Le système reconnaît les besoins des usagers, mais les capacités des usagers sont moins connues. Il y a beaucoup d'enjeux culturels qui sont très différents. Par exemple, nous travaillons avec beaucoup de personnes qui sont désaffiliées. Ce genre de dissociation amène les gens à ne pas avoir connaissance de leur corps et du temps. Ils ne savent pas l'heure, le jour, le mois et l'année. Ils ont des façons de penser qui sont très différentes. Par exemple, pour les personnes qui sont désaffiliées, si l'une d'elles est en train de ventiler et qu'elle insulte un autre individu, elle peut ne pas penser à la possibilité que cette personne se sente personnellement visée. Nous devons vraiment compter sur les professionnels pour comprendre que la personne désaffiliée qui se trouve devant nous ne nous attaque pas. Elle dirige son indignation vers un représentant du système. Cette distinction est particulièrement difficile pour plusieurs professionnels qui sont offensés par le langage ou par un usager qui hausse le ton. De l'autre côté, l'usager est là pour chercher de l'aide puisqu'il est en crise. Leurs considérations sont donc dirigées vers eux-mêmes et ils veulent régler leurs problèmes le plus rapidement possible car ils souffrent. Les professionnels ont conscience que le processus de guérison prend du temps, qu'il s'opère en plusieurs étapes. Ils considèrent donc qu'il est tout à fait normal d'attendre pour obtenir un bénéfice. Cependant, pour la personne qui est dans la rue, dans la souffrance, dans le moment présent, l'idée d'attendre est vraiment difficile à accepter. En somme, les valeurs, les capacités, les besoins et la compréhension du monde, qui sont des enjeux majeurs dans la communication, sont différents pour les usagers et les intervenants. Si les professionnels ne peuvent pas s'adapter à ces perspectives, nous sommes perdus puisque ce ne sont pas des personnes qui souffrent qui sont dans une position pour aider l'autre. C'est pourquoi je suis là, afin d'aider l'autre personne à comprendre que monsieur est désaffilié. Il n'a pas la capacité de faire ce qu'on lui dit. Est-ce qu'il est possible de trouver une autre manière de communiquer? La différence de culture est un enjeu qui est vraiment important. Il y a donc un choc qui est vécu par les deux côtés, et je vise le rapprochement de ces deux parties pour qu'elles développent un langage commun et des perspectives plus nuancées. Nouvelle pratique sociale. Est-ce que vous avez d'autres exemples de capacités qui devraient être reconnues par les professionnels de la santé ou des services sociaux? Avant de travailler chez Médecins du Monde, dans les premières années où je travaillais comme père aidant, j'ai eu des problèmes avec le fait que beaucoup de mes collègues n'étaient pas à l'aise quand j'échangeais avec un usager selon les perspectives propres à sa culture. J'avais laissé tomber la culture du système afin de gagner la confiance de la personne. Par exemple, lorsque je parlais avec cette personne, j'utilisais le mot « fuck ». Un de mes collègues me disait « tu ne peux pas dire ça. C'est un mauvais mot et tu encourages la personne à employer ce genre de langage. » Cependant, pour moi, le fait de parler le langage de la rue, de la survie, est un bénéfice car ça m'aide à gagner la confiance de la personne. Dans ma tête, c'est un premier pas à plusieurs autres démarches qui suivront pour cette personne si elle désire sortir de la rue. Donc, je commence là où la personne est, ce qui est purement de la réduction des méfaits. Nous rencontrons les gens où ils sont, dans le sens géographique, culturel, ou selon leurs problèmes de santé mentale. Il faut être là, avec eux. Pour donner un autre exemple, j'ai fait une intervention de pacification avec quelqu'un qui était agité dans un état comme la psychose. Pour moi, ce qui fonctionne et ce qui a toujours fonctionné, selon mon expérience lorsque je vivais dans la rue, c'est d'entrer dans la psychose ou le délire de l'autre. Nous bâtissons une certaine confiance à ce niveau avant de tranquillement aider la personne à se sortir de cet état. Cependant, les premières fois où j'ai tenté de faire cette technique dans le cadre de père aidant, mes collègues étaient complètement bouleversés et vraiment pas contents avec ma manière de travailler. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, lorsqu'ils ont vu que la personne était en train de faire cette démarche, là, le jugement envers moi se dissipait. Au moment où la confiance est présente et où la relation d'aide est établie, là, je peux commencer à éduquer la personne sur le système et son fonctionnement, sur comment elle doit interagir avec le système afin d'obtenir des bénéfices. De temps en temps, certains usagers peuvent être en désaccord face à mon approche qui peut être perçue comme étant trop systémique. À d'autres moments, mes collègues ne sont pas d'accord avec moi puisque mon approche est trop rue. C'est à moi de naviguer dans cette réalité. Nouvelle pratique sociale. Dans votre travail de père aidant, quelles ont été les dynamiques qui, pour vous, ont suscité des questions sur le plan éthique? Un enjeu est la culture de barrage dans le réseau de santé et des services sociaux. Les personnes qui ne se conforment pas au comportement de la classe moyenne ou normale sont souvent barrées des services et pour moi, ne plus accueillir quelqu'un qui souffre d'exclusion sociale n'est pas acceptable. Aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, quand quelqu'un est en crise, tu peux passer 3 ou 4 heures dans une intervention pour le pacifier. Mais ces 4 heures, ça coûte de l'argent et le système n'est pas nécessairement ouvert à des interventions de cette durée-là. Or, 15 minutes, ce n'est pas assez de temps pour créer un lien de confiance et d'aide avec la personne, étant donné que le système est un peu rigide et que ce n'est pas toujours possible d'avoir le temps nécessaire. Je crois que nous prenons beaucoup de « shortcuts », de raccourcis. On envoie la police, ça prend 15 minutes, c'est fait et on n'a pas dépassé notre budget. Par contre, si tu prends 4 heures par personne, et ce, à chaque fois que des individus sont en crise, on est ailleurs. Donc, quand on barre quelqu'un parce qu'on n'a pas le budget, le temps et les ressources pour l'aider comme il faut, on renforce son exclusion, sa désaffiliation et son sentiment d'oppression ainsi que de dévalorisation. La personne sent qu'elle n'a pas d'autonomie et d'empowerment, et là, elle perd tout intérêt de suivre une démarche. Elle met les mains en l'air et arrête de faire l'effort. Dans le système et même dans les organismes communautaires, il y a un rejet des personnes qui souffrent d'exclusion sociale. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu qui est le plus important à adresser parce que c'est réellement dommageable pour les patients et les usagers. Vous écoutez Le rôle de père aidant en itinérance et toxicomanie, partage d'expérience à Médecins du Monde, une entrevue réalisée par Benoît Tellier, parue le 28 novembre 2023 dans Nouvelle pratique sociale. Nouvelle pratique sociale. Vous avez parlé de valeurs différentes entre la culture de la rue et la culture institutionnelle. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur cette moralité que vous auriez observée comme étant propre à la rue? Les valeurs sont différentes parce que les circonstances de la vie sont tellement différentes. Comme j'ai dit, pour les traitements qui concernent la toxicomanie, beaucoup de ce qui est offert est basé sur la foi et l'abstinence. Pour une personne dans la rue, il n'y a pas vraiment de foi. Ils sont des individus qui ont vécu des abus toute leur vie. Il n'y a aucune croyance en un bon Dieu. Souvent, Dieu est méchant pour ces gens. D'offrir une solution basée sur la foi en Dieu, c'est un peu ridicule. C'est contre-productif. Aussi, le monde dans la rue pense que les politiciens sont crosseurs. Il n'y a pas de confiance qui porte à croire les choses qui sont dites par les politiciens ou les personnes qui travaillent dans le système. C'est vraiment difficile de trouver un moyen de regagner de l'espoir en la vie sans avoir du concret. Une fois installé dans un logement, dans un entourage qui est sain et aidant, que la personne a accès à de la bonne nourriture, qu'elle a trouvé une occupation qui est significative pour elle et non pour le système, là, elle peut commencer à laisser en arrière cette conception où tous les gens dans le système sont des crosseurs. Donc, de notre perspective, une part importante de notre travail est de faire la preuve que nous ne sommes pas des crosseurs, tant les pères aidants que les professionnels de la santé et des services sociaux. Un fardeau de plus. On représente les crosseurs, mais pour travailler, on doit défaire cette conception. C'est vraiment difficile si nous n'avons pas les ressources nécessaires pour aider les personnes. Si ces ressources n'existent pas, nous resterons toujours des crosseurs dans la tête des usagers. Nouvelle pratique sociale. Selon vous, quelles sont les conditions qui devraient être réunies pour travailler comme père aidant pour que ça soit utile à la fois pour les destinataires de votre travail et pour ceux qui effectuent les interventions? Ce qui est important, c'est de trouver des pères aidants qui vont travailler de manière professionnelle et qui ont assez de recul pour ne pas être facilement déclenchés et qui, ainsi, peuvent faire face aux personnes qui vivent les mêmes traumatismes et les mêmes souffrances qu'ils ont déjà vécues eux-mêmes. Ce n'est pas facile de s'asseoir avec quelqu'un qui a vécu la même violence et de garder son professionnalisme et son recul dans ces situations. Le recul est pour moi l'une des choses les plus importantes. En lien avec le concept de recul, nous qui sommes pères aidants chez Médecins du Monde, rencontrons une psychologue à chaque 2 semaines qui offre des supervisions cliniques. C'est à la fois une aide pour apprendre sur le métier, sur les standards du système, sur le vocabulaire et le style de communication utilisé dans le système. Par contre, c'est aussi une façon de vérifier que je vais bien, pendant que je fais face à ces situations qui peuvent être des déclencheurs et que je suis capable de gérer mes émotions d'une manière qui est saine et qui me permet d'être à 100% pour faire mon travail. Ça me donne le sens d'avoir beaucoup accompli dans mon parcours de gestion de ma consommation et dans un cheminement où j'apprends à aider les autres dans un cadre professionnel. Il y a quelque chose de vraiment clé dans l'idée qu'un problème de toxicomanie n'est jamais guéri. C'est géré. Il y a une différence. Ça, pour moi, c'est le problème avec l'approche de l'abstinence où on assume que quand tu es abstinent, tu es guéri, malgré que ta vie puisse quand même entrer dans une spirale vers le bas, même quand tu es abstinent. Tu n'es pas guéri si ta vie est un chaos que tu ne contrôles pas. Pour moi, il y a cette réalisation d'avoir beaucoup accompli par moi-même, par mes propres efforts, mais il y a encore du chemin à faire. Avec l'aide de cette psychologue et ce, au niveau de mon bien-être personnel et de mon fonctionnement professionnel. Donc, ça, ce sont les choses qui sont les plus importantes, mais il y a aussi un élément d'éducation qui est vraiment intéressant dans tout ça. L'éducation, pour moi, c'est quelque chose que je partage tous les jours avec mes collègues. C'est quelque chose qui est continu avec mes usagers et patients. Même si je ne suis pas pleinement dans leur culture et leur milieu en ce moment, il demeure que c'est de là d'où je viens. Donc, c'est toujours chez moi, mais j'ai encore beaucoup à apprendre de ce milieu parce que depuis que je l'ai quitté, il a évolué. Je dois apprendre sur ce qui a changé dans les dernières 20 années, et il y en a beaucoup. Grandement pour le mieux, grâce au programme de réduction des méfaits, et beaucoup pour le pire, dans le sens où il y a un gouvernement qui n'adresse pas la crise du logement et l'inflation en ce moment. La vie devient extrêmement chaotique, située seulement dans le moment présent. Cependant, avec du recul et l'opportunité d'échanger de l'information sur les différentes réalités, ainsi que de nous éduquer nous-mêmes, on peut trouver que le chaos est un peu moins chaotique et qu'il y a vraiment du monde autour de nous qui travaille pour améliorer tout ça. Pas seulement pour mes usagers et mes patients, mais pour la société en général. Parce que plus les personnes qui sont désaffiliées, rejetées et marginalisées vont bien, mieux se porte le monde actuel, la majorité. Plus on élargit la perspective, moins on est dans le carreau, mais de travailler dans le quotidien, ça semble souvent extrêmement chaotique. Nouvelle pratique sociale. Est-ce que vous pensez que le type de rôle que vous occupez chez Médecins du Monde pourrait exister dans un milieu institutionnalisé comme un CLSC, par exemple? Ça se passe en ce moment. Il y a des hôpitaux qui emploient des pères aidants. En revanche, le rôle d'un père aidant dans le milieu hospitalier est différent. Pour les personnes que je connais qui travaillent dans ces environnements, il n'y a pas le côté plaidoyer. Souvent dans les hôpitaux, en comparaison des organismes communautaires, les pères aidants sont d'anciens patients qui connaissent le système, le rôle des professionnels et qui vont recréer la même dynamique qui est déjà présente. Mais où on voit le plaidoyer maintenant dans le système, c'est les comités des patients et pas les pères aidants. En ce qui me concerne, l'organisme communautaire qu'est Médecins du Monde divise mes responsabilités entre l'intervention et le plaidoyer. J'ai beaucoup plus de place pour prendre le temps d'expliquer des choses à mes collègues et avec les usagers, d'essayer d'expliquer que le système fonctionne de cette manière pour une raison, ses limites de ressources et de temps. Par contre, sans la présence de ce côté plaidoyer, je pense que les pères aidants risquent de répliquer ce qui est déjà en place. C'était le rôle de père aidant en itinérance et toxicomanie, partage d'expérience à Médecins du Monde, une entrevue réalisée par Benoît Tellier, paru le 28 novembre 2023 dans Nouvelles pratiques sociales. Créativité et alliance thérapeutique. Des pratiques à mettre en lumière pour mieux saisir l'accompagnement social en itinérance dans le milieu institutionnel. Un texte de Judith Sigouin, paru au printemps 2023 dans la revue du CROMIS. Quelle que soit la manière dont on aborde la profession du travail social, l'aspect relationnel en est un élément incontournable. Ceci apparaît d'autant plus vrai dans un contexte d'intervention auprès de personnes en situation d'itinérance. En effet, l'itinérance est conçue comme un phénomène complexe et multifactoriel qui serait entre autres provoqué par des ruptures relationnelles. Ces ruptures relationnelles sont à comprendre tant à un niveau micro-sociologique, comme une séparation, un deuil ou une fuite du domicile, que macro-sociologique, par la stigmatisation, l'exclusion et la désaffiliation sociale que l'itinérance sous-tend. Plusieurs recherches soulignent le rôle bénéfique que peut jouer une relation solide et mutuelle avec les intervenants et intervenantes sur ces ruptures et leurs possibles effets. Cet article présente des réflexions issues à la fois de ma pratique professionnelle des 10 dernières années en tant que travailleuse sociale dans le Réseau de la santé et des services sociaux du Québec, RSSS, auprès de personnes vivant une situation d'itinérance et d'une revue de la littérature réalisée dans le cadre de ma recherche doctorale encore en cours. Ma recherche, explorant la relation entre les travailleurs et travailleuses sociaux, sociales et les usagers-usagères sous l'angle de l'alliance thérapeutique. J'ai également recensé les écrits entourant cette notion. Si l'alliance thérapeutique était auparavant l'apanage de la psychologie, sa pertinence dans la pratique du travail social fait maintenant consensus et de plus en plus d'études démontrent que le niveau de qualité de cette alliance est l'un des plus importants prédicteurs de l'atteinte avec succès des objectifs déterminés en suivi, et ce, peu importe la discipline d'intervention. Alliance thérapeutique. Selon le récent guide des bonnes pratiques pour l'accompagnement social en itinérance, l'intervenant-intervenante doit créer un espace relationnel où la personne se sent accueillie, respectée, en confiance, et sait qu'elle conserve toute son autonomie afin de contribuer à réparer les relations d'exclusion dans lesquelles se sont longtemps inscrites les personnes desservies. Travailler en collaboration avec la personne et adopter une attitude qui soit authentique et transparente s'avèrent des outils précieux pour bâtir cette relation significative. Cet espace relationnel nous amène à la notion d'alliance thérapeutique, qui comporte deux aspects centraux. La collaboration dans un rapport mutuel et l'attachement interpersonnel entre le ou la professionnel et la personne accompagnée. La dimension mutuelle de ce rapport mérite qu'on s'y attarde à la fois parce qu'elle constitue l'alliance thérapeutique, mais aussi parce qu'elle la favorise. Selon Sennett, contrairement au don qui se fait sans aucune attente en retour, la notion de mutualité implique un échange. Cet échange permet de valoriser la différence et l'expérience singulière des personnes impliquées et de reconnaître leur autonomie, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme étant non moi, et comme ayant une vitalité et une réalité qui lui est propre. En d'autres termes, il s'agit de donner à chacune des personnes impliquées un certain pouvoir sur l'échange qui se crée entre elles dans une relation mutuelle et asymétrique plutôt qu'inégale. Il y a aussi une dimension indéniablement affective dans l'alliance thérapeutique de par l'autre élément la composant, l'attachement interpersonnel, qui se fonde sur la confiance, la sollicitude et l'engagement et couvre l'extension selon laquelle l'intervenant devient une personne significative et un objet chargé d'émotions pour le client, et le fait que le client sent que l'intervenant s'engage et se préoccupe de lui. Toutefois, la littérature soulève plusieurs obstacles à l'établissement de l'alliance thérapeutique et à la mutualité dans cette relation, dont j'ai également pu être témoin au cours de ma pratique professionnelle dans le RSSS auprès de personnes ayant vécu une situation d'itinérance. Rigidité institutionnelle. D'emblée, force est d'admettre que de créer un lien de confiance avec des personnes qui ont été marginalisées, stigmatisées et ont vécu des ruptures à de multiples niveaux n'est souvent pas chose simple. Thorpe souligne d'ailleurs qu'une identité stigmatisée peut conduire les individus à s'auto-exclure de certaines relations ou situations, en cherchant à minimiser et à gérer les dommages causés à leur identité et à leur personnalité. En ce sens, l'attachement interpersonnel entre le ou la professionnel et la personne suivie, de Bond, selon Bourdin, notamment, peut être difficile à instaurer lorsque cette dernière a dû faire face à ses nombreuses ruptures par le passé. Cet attachement vient confronter la vision classique de l'intervention, fondée sur l'objectivité clinique et la distance professionnelle, et soulève la question de la place des émotions dans la création de l'alliance thérapeutique, une notion encore marginale dans le vocabulaire du travail social. Telle que le soulèvent Alexander et Charles, selon plusieurs auteurs et autrices, encourager la place des émotions en intervention pourrait favoriser une relation double, par exemple, une relation à la fois professionnelle et amicale. Parmi ces auteurs et autrices, certains et certaines voient cela comme bénéfique pour une prise de décision concertée entre travailleurs et travailleuses sociales et personnes suivies, permettant également de normaliser et d'humaniser la relation. D'autres, au contraire, mettent l'accent sur les risques que comporte l'assouplissement des limites du rapport professionnel, ouvrant la porte à de possibles abus dans la relation toujours inégale entre intervenants, intervenantes et personnes suivies. Par ailleurs, comment arrimer, d'une part, la mutualité dans la relation et, d'autre part, la reconnaissance du savoir de l'expert et l'experte que l'on vient consulter pour une raison précise et afin de rassurer, de calmer les incertitudes, de faire disparaître les ambivalences? À cela s'ajoutent les transformations que connaît le RSSS depuis les années 2000, avec la mise en place de la nouvelle gestion publique. Celle-ci a des impacts considérables sur la relation entre professionnels et usagers-usagères et par conséquent, sur l'établissement de l'alliance thérapeutique. Ce modèle de gestion étatique, centré sur l'efficience des services, vise la rentabilité des interventions. Il met de l'avant les approches médicales et administratives au détriment de l'élément essentiel de toute intervention, soit la relation entre le professionnel et l'usager. En ayant pour objectif le rendement statistique et le roulement des usagers et usagères, ce modèle ne favoriserait donc pas la création d'une relation profonde entre travailleurs et travailleuses sociaux et sociales et usagers et usagères, mais plutôt des services qui ciblent des besoins à court terme et qui ne considèrent pas la personne suivie dans sa globalité. Plusieurs tensions émergent de ce contexte de pratique et sont ressenties par les travailleurs et travailleuses sociaux et sociales et les personnes en situation d'itinérance. D'une part, les professionnels expriment un sentiment d'être dépossédés de leur pratique, un désenchantement, voire une crise identitaire professionnelle, leur travail devenant impersonnel et instrumental. D'autre part, cette manière de classer, voire d'étiqueter les usagers-usagères dans une optique d'efficacité donne aux institutions de soins un rôle d'ancrage de l'identité marginale et de la dépendance au service des personnes qui vivent de l'itinérance plutôt qu'un rôle de support à leur intégration sociale. Vous écoutez « Créativité et alliance thérapeutique » des pratiques à mettre en lumière pour mieux saisir l'accompagnement social en itinérance dans le milieu institutionnel, un texte de Judith Sigouin, paru au printemps 2023 dans la revue du CROMIS. La créativité pour naviguer. Dans ce contexte, qui ne favorise pas toujours l'autonomie de l'intervenant et l'intervenante et de la personne suivie, et par conséquent, l'instauration d'un rapport d'échange mutuel dans le cadre d'une alliance thérapeutique, les acteurs et actrices doivent faire preuve de créativité. Tout en me référant à la littérature, je me rapprocherai ici de ma posture d'intervenante pour parler de cette créativité comme un moyen possible pour les intervenants et intervenantes de naviguer dans le cadre proposé par le réseau de la santé, tout en permettant la valorisation de l'attachement unique qui se tisse entre travailleurs et travailleuses sociales et personnes en situation d'itinérance. La notion de créativité est complexe. La définition proposée par Winnicott fait référence à de multiples pratiques et la considère comme la coloration de toute attitude face à la réalité extérieure. Ce monde créatif donne à la personne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue, ce qui s'oppose à un tel mode de perception. C'est la relation de complaisance soumise envers la réalité extérieure. En adoptant une posture créative, en singularisant leurs pratiques et modes d'intervention, les intervenants et intervenantes réagissent donc à leur sentiment de perte d'autonomie et s'y opposent en se distanciant volontairement de certaines normes imposées. Un des premiers éléments mis de l'avant par les intervenants et intervenantes dans leur effort pour créer des liens avec les usagers et usagères est de laisser plus de place aux émotions dans la relation professionnelle. La notion de « care » fait en ce sens référence à la fois aux soins comme activité et aux soucis de l'autre comme attitude et disposition. Cette approche postule qu'on ne peut intervenir adéquatement auprès d'autrui sans comprendre profondément son expérience. Adopter des pratiques professionnelles en adéquation avec la notion de « care » apparaît ainsi comme un moyen de défier la nouvelle gestion publique en se concentrant sur le bien-être des gens plutôt que sur les finances de l'État. Il existe également toutes sortes de pratiques silencieuses, délinquantes, souples, cachées, moins souvent mises en lumière, mais bien présentes dans le travail des intervenants et intervenantes. Ces pratiques visent à contourner les rigidités qui créent une dissonance et un inconfort chez les intervenants et intervenantes pour se rapprocher davantage d'une intervention qui correspond à leurs valeurs profondes de travail. Elles mobilisent les savoirs tacites et expérientiels des intervenants et intervenantes, leurs compétences relationnelles et leurs forces personnelles. Je me permets ici de présenter ma compréhension de ce que sont ces pratiques silencieuses et de les illustrer à travers des exemples tirés de ma pratique. Prenons comme premier exemple le travail de proximité. Cette forme de pratique, aussi appelée « outreach », consiste à aller vers les personnes pour les rencontrer dans leur milieu de vie, plutôt qu'au sein des institutions de service et de s'ajuster à leur contexte de vie, plutôt que de leur demander de s'adapter au cadre des établissements de soins. Si le travail de proximité est une pratique à la fois de plus en plus valorisée auprès de différentes communautés desservies par les services et intégrée au mandat de plusieurs équipes d'intervention en itinérance dans le réseau de la santé, certaines pratiques silencieuses peuvent pousser plus loin à des fins cliniques et thérapeutiques, cette incursion dans le milieu de vie et le quotidien intime des personnes. Par exemple, l'isolement social d'une personne peut parfois être tel que des animaux de compagnie jouent pour elle le rôle de membre de la famille. Par inquiétude pour ce compagnon de vie, une personne peut alors être très réticente à recevoir des soins de longue durée comme une hospitalisation ou une thérapie pour une dépendance à une substance, même s'il s'avère parfois nécessaire. Pour éviter que la situation ne se détériore, l'intervenant-intervenante peut alors avoir à se porter garant et garante de nourrir les animaux de la personne suivie le temps qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin. Les intervenants et intervenantes peuvent également aller aider une personne à faire le tri dans ses effets personnels pour désencombrer son logement. Il n'est certainement pas dans la description de tâches des travailleurs et travailleuses sociaux et sociales de faire des boîtes et du tri d'objets, mais dans un contexte où la personne n'a pas accès à un tel service et où cette intervention ponctuelle lui permettrait de ne pas être évincée de chez elle, il n'est pas rare que de telles pratiques audacieuses écourent sans qu'on ne les ébruite. Un autre exemple de pratique, de plus en plus documentée et reconnue, mais qui peut correspondre à des interventions cachées dans de multiples contextes de relations thérapeutiques, est celui de l'approche de réduction des méfaits. Essentiellement, celle-ci vise la diminution des conséquences néfastes liées à certains comportements. Cette approche ne cherche pas d'emblée à réduire ou éliminer les comportements, mais prône plutôt une série d'objectifs hiérarchisés visant à régler les problèmes les plus urgents d'abord. Ceci permet de rejoindre les personnes les plus vulnérables et d'établir un lien de confiance qui peut faire toute la différence. Si les services de prescription de méthadone, notamment, semblent maintenant bien intégrés et reconnus dans le milieu de la santé et des services sociaux et s'appuient ouvertement sur l'approche réduction des méfaits, l'accompagnement au quotidien de la part d'intervenants et d'intervenantes de proximité pour gérer d'autres formes de consommation demeure encore marginal. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un ou d'une intervenante qui, suite à une entente avec la personne accompagnée, aurait accès au compte de banque de celle-ci afin de lui acheter une certaine dose quotidienne de bière et travailler ainsi de manière extrêmement serrée et personnalisée à sa réduction d'alcool. Ces exemples montrent une posture qui confronte les normes imposées, une reprise de possession de son autonomie et rappelle donc une attitude spécifique face au monde extérieur à laquelle fait allusion Winnicott lorsqu'il parle de créativité. Ce ne sont pas des actions prescrites ni encouragées par l'établissement ou par les ordres professionnels. Cependant, ce sont des interventions qui, à travers la réflexion sérieuse et le jugement clinique des intervenants et intervenantes et considérant l'historique relationnel singulier entretenu avec la personne, font grandement sens. En sortant des sentiers battus, pour offrir une intervention spécifiquement adaptée à la situation de la personne accompagnée, se crée un contexte relationnel qui valorise l'unicité et la différence de chacun et chacune, ce qui rappelle la notion de mutualité développée plus haut. Ces pratiques créatives, qui prennent parfois beaucoup de temps et d'énergie aux intervenants et intervenantes, laissent entrevoir une entente tacite faite spécifiquement avec la personne accompagnée suite à un potentiel perçu, un échange qui favorise l'engagement de la personne suivie, encouragé par ce que projettent les actions de l'intervenant-intervenante. Il semble important de souligner ici que ces pratiques, qualifiées de créatives, pourrait s'inscrire dans un bassin plus large de pratiques en travail social appelées réflexives. Celles-ci se fondent sur l'idée selon laquelle, pour toutes les professions centrées sur la relation, telle le travail social, les intervenants et intervenantes prennent le risque du traitement de situations complexes et singulières et que l'incertitude qui marque le caractère conjecturel de la pratique professionnelle nécessite des ajustements permanents, une gestion des aléas. L'intervention réclame une délibération. En travail social, plus spécifiquement, cette délibération se joue à partir d'histoires qui touchent la subjectivité des professionnels traversant des positions individuelles ou collectives au sein des organisations de travail. Bien que je ne développe pas davantage cette articulation entre réflexivité et créativité dans le cadre de cet article, il apparaît que celle-ci demeure essentielle à mettre en lumière lorsque l'on réfléchit aux pratiques d'intervention pouvant favoriser l'alliance thérapeutique. Un art difficile. Pour qualifier ces savoirs d'expérience qui ne se prescrivent pas, on peut parler de créativité de l'agir des intervenants et intervenantes ou encore du savoir-sentir. En ayant recours à différentes stratégies telles que celles décrites plus haut, les intervenants et intervenantes font appel à une pensée divergente qui leur permet de dépasser les dilemmes imposés en laissant place à leurs intuitions, à des décisions parfois spontanées et implicites et, enfin, à l'autodétermination de leur pratique. Ainsi, ils et elles se retrouvent à bricoler tels des artisans et artisanes pour mettre en place des pratiques créatives à des niveaux collectifs et individuels afin de favoriser le développement de leur pouvoir d'agir autant que celui des personnes suivies. La question qui demeure est de savoir si ces stratégies favorisent réellement l'établissement de l'alliance thérapeutique. Et si oui, comment? Malgré plusieurs obstacles à la pratique du travail social cité plus haut, la relation établie entre l'intervenant et intervenante et personne accompagnée fait souvent preuve d'une grande résilience. Il est impératif de documenter ce qui aide à tisser cette alliance, ingrédient mystère mais essentiel, tant à une construction relationnelle complexe et multidimensionnelle qu'à la qualité d'un accompagnement psychosocial auprès d'une personne marginalisée et vulnérabilisée. À travers ma recherche doctorale, j'espère documenter le fluide qui circule dans les pratiques silencieuses, dans les pratiques du care et dans les pratiques créatives, leur permettant d'aller encore plus loin. J'espère aussi documenter la relation en filigrane de ces pratiques entre travailleurs, travailleuses sociaux, sociales et personnes en situation d'itinérance, ainsi que l'effet de cette relation, autant sur les personnes suivies que sur les professionnels. C'était « Créativité et alliance thérapeutique, des pratiques à mettre en lumière pour mieux saisir l'accompagnement social en itinérance dans un milieu institutionnel », un texte de Judith Sigouin, paru au printemps 2023 dans la revue du CREMIS.